Alexandre Richard au micro, eh bien nous nous retrouvons avec Isabelle Conan pour notre émission Les mots de la foi. Et eh bien, nous allons aborder un nouveau document. C'est la lettre du pape François au peuple de Dieu. Alors, c'est une lettre qui a été écrite pour le Chili en août 2018. De fait, à cette époque, les évêques de France nous ont donné cette lettre au peuple de Dieu, mais c'est une lettre qui est parue au mois d'août. Au mois d'août, on ne fait pas très attention. Le Chili, ça paraissait bien lointain. Et puis, les problèmes de l'Église du Chili, c'était un épiscopat divisé, des fractions politiques fortes. Donc, ça nous paraissait très éloigné. Et puis, en regardant d'un peu plus près, on s'est rendu compte que les mêmes problèmes, c'est-à-dire la pédocriminalité que l'on a retrouvée ensuite en France, mis en évidence par le rapport Sauvé, cela amène à regarder d'un œil nouveau cette lettre au peuple de Dieu, parce que le pape s'adressait à tous, parce que à la fois les abus sexuels, la pédocriminalité, mais aussi les abus concernant la gouvernance, mais aussi ce qu'il appelle le cléricalisme, finalement ça nous intéresse nous aussi. Donc on vous propose de regarder de plus près cette lettre au peuple de Dieu. Voilà, donc parlons-en.
Oui, alors en quoi cette lettre finalement résonne-t-elle à ce point avec ce que dénonce le rapport Sauvé en France, là, en octobre 2021, alors que la lettre a été écrite en août 2018 au Chili?
Eh bien, si j'ose dire, la même situation, le même fonctionnement provoquent les mêmes problèmes, c'est-à-dire un silence, à l'origine, je pense, pour protéger les personnes, mais ce silence devient très lourd, et surtout lorsqu'il protège des gens qui s'en prennent aux enfants, ça pose quand même de redoutables questions. Donc, les violences faites aux enfants, que ce soit au Chili ou en France, c'est quand même s'en prendre à des enfants. Voilà. Et l'enfance, bon, tout le monde reconnaît que quelque part, c'est quelque chose de sacré. Un enfant ne peut pas se défendre, un enfant ne peut pas... Voilà, je crois que là, il y a quelque chose qui est important. Et d'autant plus, on voit dans l'Évangile même que Jésus-Christ, à une époque où les enfants, parce qu'il y avait une mortalité infantile très très forte, ne comptait pas, Jésus s'arrête et propose aux apôtres de regarder. Il prend un enfant et il demande que nous soyons comme des enfants vis-à-vis de Dieu. Donc ça veut dire quelque chose. Et puis c'est des violences générées à cause des abus de pouvoir. Donc ça, c'est... Bon, ça concerne tout le monde.
Oui, donc qui dit violence dit aussi souffrance. Et dans la première lettre aux Corinthiens, saint Paul a écrit « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Donc, quelles sont les souffrances qui sont invoquées par le pape dans sa lettre ?
Alors, dans la lettre au peuple de Dieu, il évoque le vécu d'au moins 1000 personnes qui ont été victimes d'abus sexuels, d'abus de pouvoir et de conscience perpétrés par des prêtres pendant à peu près 70 ans. Alors, c'est vrai qu'en France, on a parlé de chiffres beaucoup plus importants. C'est évident que la Commission Sauvé n'a pas reçu 300 000 personnes. Mais c'est évident aussi que les personnes qui ont été reçues, qui ont été entendues, dans toute société, dans toute sociologie, on extrapole. Alors, les 300 000 personnes, certainement, c'est extrapolé. Mais il y a aussi le travail qui a été fait dans les archives. Enfin bon, je crois que le rapport Sauvé est extrêmement précis et que... Le vécu d'au moins 1000 personnes dont parle le pape, victimes d'abus sexuels, chez nous c'est 300 000 personnes, dit le rapport Sauvé, mais même si ça n'était que 50 000, de toute façon, et même si c'était que 10, perpétrer ce type de crime vis-à-vis d'enfants, ça c'est inacceptable, et on ne peut, et ça c'est le pape qui nous dit, que condamner avec force, et il emploie un mot très fort, ces atrocités, et à redoubler d'efforts pour éradiquer. Et il va loin aussi. Il ne parle de culture de mort. Donc, c'est quand même quelque chose de grave. D'autant plus que le système, et c'est là qu'on retrouve la question du cléricalisme, le système fait que, finalement, on n'en parle pas, ou bien... Qu'un enfant vienne raconter ça dans sa famille, on lui dit « mais enfin tu dis des bêtises parce que la personne du prêtre est tellement sacralisée qu'il y a là quelque chose qui est redoutable. »
Mais quand on dit enfin, « si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui », donc on entend bien qu'effectivement que les personnes abusées souffrent, mais qui sont les autres membres qui souffrent, puisqu'on est tous, a priori, tous concernés?
tous concernés. Alors, c'est vrai qu'après tout, que quelqu'un soit pédocriminel, moi, je ne me sens pas concernée dans la mesure où je me dis, bah, c'est son affaire. Mais quand même, c'est un enfant, et moi aussi, maintenant, je suis grand-mère, je me dis, mais le respect que l'on doit aux enfants, c'est quelque chose qui vaut partout. Donc, cette souffrance, exactement lorsqu'on voit, lorsqu'il y a un crime perpétré contre les enfants, on voit des marches importantes, des gens qui se disent, mais enfin, cet enfant qui a été tué ou qui a été blessé ou qui a été... ça pourrait être le nôtre. Enfin, on est capable d'empathie, de se mettre à la place d'eux. Donc, c'est le réflexe naturel d'une société qui dit, mais c'est pas possible. Et qui se sent solidaire de cette difficulté.
Donc dans l'Église, le problème du pardon, hein, dans notre Père, nous disons pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc effectivement, le pape il invoque le pardon. Et alors que propose-t-il pour la réparation de ces crimes, pour éradiquer donc cette culture de mort?
Eh bien, puisque le Notre Père nous vient de la culture juive, on sait que Dieu pardonne dans la culture juive. Mais le pardon, lorsque le mal a été fait à quelqu'un d'autre, le pardon de Dieu, Dieu est extrêmement généreux, il pardonne d'emblée, d'office. Mais lorsqu'il s'agit d'une blessure faite à autrui, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais il faut, pour pardonner à celui qui vous a offensé, qu'il demande pardon, donc qu'il y ait une demande de pardon. Et ça, c'est quand même extrêmement important, que la demande de pardon existe pour qu'on puisse pardonner. Et en aucun cas, on peut pardonner à la place des autres. Enfin, je crois que voilà, c'est très facile de dire la prière comme ça, mais en y réfléchissant, c'est très important que celui qui a commis la faute, l'erreur, ce que vous voulez, puisse quand même faire une démarche vers celui qui a été offensé. Et là, voilà, il y a ce pardon qui peut être à la fois donné et puis, dans certains cas, effectivement, la réparation du dommage.
Oui, alors qu'est-ce qu'il propose pour changer en profondeur dans notre façon de vivre, dans cette culture que l'on a de pardon? Qu'est-ce qu'il propose comme culture pour faire avancer cette...
Alors déjà, une attitude, et là ça renvoie à l'attitude que l'on a vis-à-vis des enfants, mais non, tu racontes des histoires. Eh bien non, l'enfant ne raconte pas forcément des histoires. Et donc là, peut-être écouter. Et ça, je crois que écouter les personnes qui sont blessé, humilié, parce que souvent, dans certains cas, il l'a bien mérité, ou bien telle fille, mais il faut voir comment elle est habillée, ou bien, bon, je crois qu'il y a là aussi, dans certains cas, une attitude qui confine à la complicité. C'est ce que dit le pape. Le fait d'ignorer augmente la gravité jusqu'à tomber dans la complicité, dit-il. Donc, il propose que ce soit pas simplement une histoire de personne à personne, mais qu'il y ait un fonctionnement différent de communauté ecclésiale. Il dit, nous reconnaissons que nous n'avons pas su être là où nous devions, que nous n'avons pas agi en temps voulu en reconnaissant l'ampleur de la gravité du dommage infligé à tant de vies. Et je précise que ce n'est pas simplement François, parce qu'on pourrait dire, c'est pas François. Non. Parole du cardinal Ratzinger, qui écrit cela, lorsqu'il n'était pas encore pape, pour le vendredi saint 2005. Donc, on voit bien là qu'il y a cette communauté et il propose de réagir de manière globale et communautaire. Pour, dit-il, faire la vérité et puis être ensemble pour assumer la douleur de nos frères.
Ce qu'il nous dit aussi, c'est... En fait, jusqu'à aujourd'hui, il y avait des terrains propices pour ce genre de situation, hein, de se taire, de dissimuler ses actes. Voilà, donc trouver un moyen pour que cette culture en fait, ne trouve pas de terrain propice à la dissimulation et à la perpétuation de ses actes.
Ce qu'il stigmatise en disant, particulièrement dans l'Église, qui sont pleins d'orgueil et d'autosuffisance. Et il parle là de, justement, de l'appel à Dieu. Seigneur, sauve-nous et sauve-nous aussi de ce silence, de cette dissimulation et de cette souffrance infligée aux autres. Donc, voilà, si un membre souffre, les autres aussi souffrent.
Oui, donc on peut parler de la souffrance de tous les membres. Dans sa lettre, effectivement, le pape nous parle de la douleur des victimes. Il nous dit « La douleur des victimes est une plainte qui monte vers le ciel, qui pénètre jusqu'à l'âme. » Dans l'évangile de Luc, aussi dans le Cantique de Marie, il est dit que le Seigneur se souvient de la promesse faite à nos pères et il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de biens les affamés, il renvoie les riches les mains vides.
Oui, c'est vrai que ce cantique du Magnificat, qu'il était interdit de dire dans certaines églises au Chili, justement, parce qu'il écoute les humbles et il renverse les puissants. C'est quand même intéressant, ça. Alors,
oui, comment se fait-il qu'il ait fallu au Chili attendre 70 ans avant que ces plaintes soient entendues ?
Eh bien, je crois que c'est ce qui se passe quand il y a une très, très grande souffrance. Aujourd'hui, on découvre, par exemple, en France, on découvre les réalités de la guerre d'Algérie ou on découvre d'autres réalités. Finalement, il n'y a pas si longtemps que les gens qui ont subi la Shoah osent en parler, même lorsqu'ils sont victimes. Parce que lorsqu'il y a des choses qui dépassent l'entendement, qui sont de telles souffrances, finalement, pour pouvoir continuer à vivre, il faut oublier cette souffrance. Et là, je crois que c'est quelque chose qui est profondément humain et psychologique. Et puis, il y avait le pouvoir du clergé. Finalement, la confession donne un pouvoir immense au clergé, et souvent qui a utilisé politiquement ce qui ne devait être que spirituel. Et le pape évoque tout type de corruption, spécialement la corruption spirituelle.
Et oui, et puis il nous dit aussi qu'en tant que communauté, le clergé ressent de la honte. Alors pourquoi le clergé ressent-il de la honte ?
Justement, je crois qu'il y en a pendant longtemps, ils n'ont pas ressenti de la honte. Et puis lorsque les choses sont sorties, je crois que c'est vraiment quelque chose aussi peut-être que dans toute société, il y a aussi des gens qui font honte à leurs collègues, honte à aux gens qui travaillent avec eux parce qu'ils ne pensent pas que ce soit possible. Et là, je crois que c'est vraiment quelque chose de très humain. Et dans certains cas, on ne mesure pas l'ampleur et la gravité du dommage parce qu'on pense que c'est impossible. Et même le cardinal Ratzinger dit tout simplement dans le chemin de croix de 2005.
Il dit alors que de souillures dans l'Église et particulièrement parmi ceux qui, dans le sacerdoce, devraient lui appartenir totalement. Combien d'orgueil et d'autosuffisance. Il parlait aussi de trahison des disciples et invoquait la plus grande souffrance du Rédempteur, celle qui transperce le cœur.
Voilà, donc on voit que la lettre au peuple de Dieu, quelque part, ça nous concerne aussi. Et puis, ça pose la question,